Alors, nous recevons aujourd'hui une alliée de nos communautés et aussi une ancienne collègue et amie, la sénatrice Julie Miville-Deschênes. Bienvenue à l'émission.
Merci de m'avoir invitée.
Alors, la sénatrice Julie Miville-Deschênes a connu une grande carrière comme journaliste à Radio-Canada, où j'ai travaillé moi aussi avec elle.
On a tous les deux connu une belle carrière
oui,
à Radio-Canada.
Oui, on a bien aimé ça. Elle a aussi été ombudsman de la Société d'État et présidente du Conseil du statut de la femme du Québec. Elle est sénatrice indépendante depuis 2018. Julie Miville-Deschênes, ce n'est pas habituel pour nous de le faire, mais on va vous voir pour l'entrevue.
Exactement. Moi, j'ai cette manie-là. Je vous vois plus que je tutoie. C'est une habitude.
Alors, on utilise quel pronom et quels accords avec vous, Julie Miville-Deschênes?
Elle.
Et les accords féminins?
Oui, absolument.
D'accord. Alors, vous faites la manchette depuis quelques semaines en raison de votre combat contre certains géants, on va dire des géants de la porno sur le web. Cette fois, c'est pour protéger les enfants. Pourquoi?
Alors, écoutez, c'est arrivé pendant la pandémie, au début. J'ai commencé par aller à une manifestation devant Pornhub, qui est située vraiment à hasard à côté de chez moi, à Montréal. Et donc, au début, la lutte était davantage sur le fait qu'à l'intérieur de ce site web, comme d'autres sites porno d'ailleurs, il y avait, et il y a encore dans certains sites web, des images de pornographie non consentie. Et aussi d'enfants, de pornographie juvénile, d'exploitation sexuelle des enfants, d'images sans consentement. Donc ça existe encore. Pornhub a fait des efforts, mais il y a beaucoup de sites porno. Il y a des millions d'images et ça coûte de l'argent d'avoir des gens qui, entre guillemets, nettoient leur site et s'assurent que ce sont toujours des images d'adultes consentants. Donc j'ai vu tout ça et je me suis dit, oui, mais alors ça... Qu'est-ce qui se passe à l'entrée de ces sites? Parce que comme vous le savez, dans la vraie vie, dans la vie avant, quand on était jeune, pour avoir accès à de la porno, il fallait montrer une carte d'identité. Pour un magazine où il n'y avait rien qui bougeait, là, magazine porno. Alors maintenant, pour entrer sur ces sites qui sont vraiment, j'en ai vu beaucoup pour présenter mon projet de loi, où il y a de la violence, où il y a des images hardcore, on n'est pas dans le softcore, on laisse les enfants de tout âge. En fait, il n'y a aucune barrière à l'entrée.
On vous demande, est-ce que tu as 18 ans ou plus?
Exact. On a juste à dire oui, aucune vérification et on rentre. Ça veut dire que y a certainement des adolescents de 17 ans, mais il y a des enfants de 13 ans. À peu près le tiers des enfants de 13 ans, selon des études britanniques, ont vu de la porno. Les enfants de 11 ans aussi, à peu près le quart. C'est vraiment, selon certains, en Espagne, on qualifie ça d'épidémie. Parce que ces enfants-là, leur cerveau n'est pas fait pour voir ça et pour comprendre que c'est de la performance. De la pornographie pour adultes, entre adultes consentants, pour certains, c'est une forme de divertissement, mais c'est aussi de la performance.
Ouais.
C'est-à-dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la vie sexuelle, surtout dans les débuts des ébats, quand on est le malaise, tout ça, c'est pas ça, là.
Ouais.
On est devant de la performance de gens qui font des ébats, qui sont essentiellement, souvent, on prend des médicaments pour être capable d'être encore plus sexuellement attiré. Donc, tout ça fait, Denis Martin, que franchement, c'est pas pour les enfants. Alors, pourquoi dans une société où on se targue de protéger les enfants, on les laisse avoir accès depuis 15 ans, hein, parce que les sites porno gratuits, ça fait 15 ans qu'ils font une tonne de profits avec des clics. Donc, les clics d'enfants, ça les sert aussi, parce que ça veut dire quelqu'un de plus qui regarde ça.
Donc, vous proposez quoi?
Alors, je propose, c'est relativement simple, et d'autres pays ont pensé, c'est pas moi qui ai inventé ça, ce qu'on appelle la vérification d'âge. C'est-à-dire qu'à l'entrée de ce site porno, on redirige les clients vers ce qu'on appelle... une tierce partie, une compagnie spécialisée en vérification d'âge, qui utilise les méthodes qui vont être choisies dans la réglementation, les méthodes que le gouvernement voudra bien établir, et qui fait qu'on va vérifier de façon sécuritaire, c'est écrit dans mon projet de loi, selon les règles de l'art, le fait que la personne qui veut aller sur un site porno est majeure.
Maintenant, pour beaucoup de personnes de nos communautés, ça pose un problème parce que ça peut stigmatiser la personne qui ne veut pas être identifiée. Comment on résout ce problème-là?
Mais c'est-à-dire que ça se pose pas seulement dans la pornographie, ça se pose dans tous les endroits où on demande maintenant une certaine vérification. Je pense par exemple aux jeux en ligne où on demande aussi des cartes d'identité et tout. Alors, mon projet de loi est très clair. On dit que toutes les règles entourant le respect de la vie privée doivent être respectées. C'est-à-dire qu'il doit y avoir la destruction des données rapidement. On doit prendre des mesures les moins invasives possibles. Tout ça fait partie du projet de loi dans les principes. Et au moment de la réglementation, c'est-à-dire que ce n'est pas encore fait, on choisit les meilleures méthodes. Pour vous donner un exemple, en Allemagne, où depuis longtemps on vérifie l'âge de ceux qui veulent avoir accès à de la pornographie, il y a une centaine de méthodes qui ont été autorisées par les autorités et donc qui sont en place. Et c'est souvent des compagnies qui ont des liens avec les compagnies bancaires. Donc, ils appliquent tout ce qui a trait à la vie privée de façon extrêmement stricte, c'est-à-dire qu'il y a une déségrégation des données, on efface les données. Donc, évidemment, si vous avez... Je comprends ce que vous dites. Il y a des gens qui peuvent avoir peur d'être reconnus, mais c'est vrai partout dans l'Internet. Alors, oui, il y a cette peur. On y fait face en s'assurant que c'est une vérification qui est faite dans les règles de l'art, mais en même temps, n'oublions pas que l'idée, c'est de protéger tous les enfants. Et ça, c'est quand même une volonté dans la société qui est importante, je pense.
Beaucoup, ce projet de loi a été critiqué à toutes sortes de niveaux.
Absolument.
Moi, je vais vous amener...
Ça s'appelle le débat politique.
Tout à fait. Je pense qu'après quelques années au Sénat, oui, vous êtes habitué. Mais moi, j'aimerais vous demander, la porno, est-ce que c'est mal?
J'ai jamais dit ça. Alors, donc, ça fait vraiment partie de la différence que je ferais entre mon projet de loi et un débat sur la pornographie qui a lieu dans les milieux féministes et tout.
Parce qu'il y a des problèmes avec la porno, on s'entend, là.
Bien sûr.
On a parlé de la performance, ça a des répercussions sur les gens qui commencent à prendre des médicaments.
Exact.
Oui.
Exact. Alors, tu sais, on ne peut pas non plus dire, tu sais, tout va bien, Madame la Marquise, mais c'est un autre débat. Et moi, je ne m'intéresse que à la porno en autant qu'elle n'est pas, qu'il n'y a aucune règle pour s'assurer que les enfants qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire la différence entre ce qu'ils voient et la réalité, écoutez, ça veut dire que c'est toute une génération qui vont commencer leur relation sexuelle en pensant qu'il y a une part de violence. Vous savez qu'il y a des enquêtes sérieuses encore là en Grande-Bretagne parce qu'eux ont une loi déjà passée et tout, qui dit que les filles, à peu près 45%, s'attendent à de la violence dans leur relation sexuelle. C'est pas normal, ça. C'est pas ça, les relations sexuelles. C'est censé être un échange du plaisir des deux côtés. Et donc, la pornographie comme industrie, elle existe. Et c'est pas du tout ça l'objet de mon... je n'ai jamais dit, vous pouvez aller voir tout ce que j'ai dit là-dessus, je n'ai jamais qualifié la pornographie pour adulte entre adultes. C'est ça, c'est légal. Ouais. C'est légal.
En autant que c'est des adultes et c'est consenti.
Exactement. Et il y a plein de choses illégales qui se passent sur ces sites. Et malheureusement, ça c'est un autre sujet,
ouais,
mais la police, parce que la police, on a eu plus d'actions aux États-Unis contre une compagnie qui est chez nous, là, Pornhub, que chez nous.
Puis ces mêmes organismes-là, quand je parle des géants du web, ils peuvent facilement couper tout ce qui est l'information légitime sur leur plateforme, mais on a de la difficulté à enlever ce qui... Mais ça, c'est un autre débat.
Ben, c'est-à-dire que c'est très payant. Ouais. Il faut comprendre que ce soit les sites porno, que ce soit des sites à l'intérieur, il y en a même sur X des pages porno. Là. Il y en a un
tout
peu partout.
Fait.
Là.
Tout à fait. J'aimerais vous amener, parce que je l'ai dit en début d'entrevue, vous êtes une alliée de nos communautés depuis longtemps.
Absolument.
Pourquoi ça vous êtes proche de nous comme ça?
Ben, écoutez, ça a commencé avec un collègue radio-canadien que j'ai très bien connu à Toronto. Il est décédé aujourd'hui, mais il s'appelait Pierre Tanguay.
Que j'ai connu aussi, oui.
Oui, et qui était gay et qui avait vécu toute la transition pour vraiment réussir à être lui-même, mais avec toutes les difficultés que ça comprenait, se cacher, s'exiler. Et il a contracté le sida. Et donc, je l'ai accompagné à des moments où j'ai vraiment vu de façon très, très brutale une certaine discrimination envers lui et aussi envers cette maladie qui était associée donc à l'homosexualité à tort. et qui fait que les soins qu'il recevait, c'était toujours les gens avaient peur de lui, il ne rentrait pas dans les chambres. Donc, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont choquée, parce qu'un être humain est un être humain, et quelle que soit l'orientation sexuelle. Donc, à partir de là, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là. Et là, la vie m'a amenée à un autre endroit qui a été, j'ai fait un peu de diplomatie, et j'ai été émissaire aux droits et libertés de la personne du gouvernement du Québec, ce qui était un nouveau poste. Et mes deux priorités, c'était l'égalité femmes-hommes et les questions LGBT. Donc ça, ça a été vraiment un vrai défi. Et ce qu'on m'avait demandé spécifiquement de faire, c'est de connaître et de comprendre la communauté LGBT à Montréal pour les rallier derrière le projet du gouvernement du Québec à cette époque, on est à ce moment-là en 2017-2018, le projet de faire ce qui s'appelle maintenant Égide.
Une association internationale, oui.
Exactement, qui est une association internationale pour appuyer la diversité, particulièrement dans le monde francophone, beaucoup en Afrique, parce que, comme vous le savez, les injustices et l'absence de droits des communautés LGBT, c'est énorme. Moi, j'ai pu y aller, j'ai pu parler à ces communautés là-bas, et vraiment, ça n'a rien à voir. Mais donc, le Québec a fait ce qu'il fallait faire. On va vers eux, puis on essaye de les aider. Et ça, la communauté ici s'est rassemblée autour de cet enjeu.
Il ne reste pas beaucoup de temps, mais êtes-vous inquiète par cette montée de haine envers les communautés queer, notamment les communautés trans, les manifestations et tout ça, ce qu'on voit qui vient des États-Unis?
Oui, il y a beaucoup de choses dont je suis inquiète. Effectivement, dans ces manifs, et on en a une à Ottawa, il y a toutes sortes de monde. Et il y en a qui sont plus extrêmes que d'autres. Mais je vous dirais que je trouve qu'en général, le discours envers pas mal de minorités est assez difficile. Et je dirais que tout l'Internet et tout ça y contribue. C'est pas très simple non plus pour les femmes en politique. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a des désaccords, on parle de leur sexualité. C'est très difficile, comme vous le dites, pour des minorités, comme les trans aussi. Je vous dirais que ce qui n'est pas simple dans ce débat-là, c'est qu'il y a vraiment un besoin de reconnaissance, mais par ailleurs, il ne faut pas non plus aller trop vite dans certaines transitions. On a vu des choses qui sont inacceptables. Donc, c'est cette idée pour moi de garder un équilibre entre, oui, il y a des droits importants qu'il faut reconnaître et donner aux minorités, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment, encore là, de jeunes, d'enfants qui n'ont pas encore tout décidé dans leur vie. Alors, c'est un équilibre difficile, et quand je dis ça, je ne veux pas être qualifiée d'homophobe.
Non.
Je réfléchis à ces questions-là, je regarde ce qui se passe, et je me dis, comment pourrait-on faire mieux?
Ben, on va certainement devoir s'en reparler très bientôt, Jamie Ville-Deschênes, sénatrice. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres.
Merci de m'avoir invitée.